Merci Véronique, merci de nous avoir invités et nous allons faire un saut à la fois épistémologique puisqu'on va parler d'imaginaire social et pas de discours social. On va changer de type de roman, on va passer directement aussi au 21e siècle à l'extrême contemporain et on va aussi avoir disons, une autre approche du mot romanesque. Dans ce que Marc vient de vous présenter, le mot romanesque renvoie à ce qui convient au roman ou ce qui caractérise le roman. Moi, je vais partir d'autres choses, aller voir tout à l'heure comment je m'y prends. Et donc, j'ai rencontré Véronique au 5e rencontre internationale de l'ethnocritique et de la sociocritique la semaine passée, et donc c'est là qu'elle m'a dit que le but du séminaire était de trouver des thèmes à développer pour le séminaire narrativité dans la littérature contemporaine de l'année prochaine. Donc, j'ai toujours été un élève docile d'école, donc j'ai entendu Véronique dire ça, et donc j'essaie de dégager. Une série de thèmes, vous les avez là au-dessus du petit papier que je viens de vous transmettre, thèmes de recherche explorables. Si je vous les décrivais tous, j'en aurais pour une heure et demie à peu près, donc je vais me limiter aux deux derniers, surtout au dernier parce que c'est le plus frais, compte tenu du fait aussi que déjà par deux fois, dans deux séminaires de Figura de l'an passé, je crois avoir mes dates quelque part avec moi, en avril, je pense, l'an passé, et puis en août de l'année passée, j'ai déjà parlé de narrativité, j'ai déjà parlé d'imaginaire social, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Et donc là, je vous mets des choses plus contemporaines, même très contemporaines dans ma recherche à moi, dans la mesure où je vais vous parler essentiellement du sixième thème. Le titre là que j'avais indiqué, le romanesque est mort, vive le romanesque, ça va, mais comme je prépare un article, un compte-rendu pour Spirale que je dois remettre mercredi sur ces deux romans, mon titre va être un petit peu plus rock'n'roll et sympathique. Ça va s'appeler Ma révolte des Apax. Car je vais vous montrer que ces deux romans, dans la production contemporaine, constituent à des degrés divers des exceptions, la propagande, la publicité des éditeurs parlent souvent à leur sujet d'ovni littéraire, c'est tout à la mode, et c'est un peu ça, et je crois que c'est un peu légitime de penser comme ça. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les autres thèmes, ben, vous m'en parlerez, vous m'enverrez un email, je vous dirai ce que j'entends par là. Et donc, je disais une autre façon de définir le mot romanesque, un autre sens du mot romanesque simplement, est celle-ci, et j'ai fini par prendre cela, c'est parce que ça m'a intéressé, ça m'a un peu perturbé dans la mesure où la notion même de romanesque, au sens où Andreas Fersman en a parlé, remontait à des études de maître que j'ai fait autrefois à l'université de Liège et était partagée par des vieux croutons, par des profs qui parlait du romanesque comme étant une sorte d'évidence, disons la grande littérature, le grand roman contient une part d'évasion, il parlait avec des termes comme ça, une évasion dans l'imaginaire, et ça c'était le romanesque proprement dit. Bon, Fersman a repris ça récemment, et ça tout fallait venir parce qu'en fait, vous avez en note en bas de page dans les deux, disons, les deux articles que j'ai tirés depuis qu'on s'est parlé l'an passé, à Figura sur à la fois sur la narrativité et sur le romanesque. Donc le romanesque c'est le deuxième, c'est apparaître dans une revue qui s'appelle Romanesque, qui est de l'université de Picardie en France, et ils ont une très belle petite revue, je vous suggère d'aller lire ça si vous êtes intéressé par ma chose, il y a plein de lectures de textes qui sont intéressantes. Et Fersman donc arrive à dire ceci après avoir fait une longue recherche sur la base de données Frantext. Il en arrive à dire, bon, voilà, il y a quatre caractéristiques qui peuvent définir le romanesque. Premièrement, oui, c'est une catégorie esthétique, et c'est une notion qui est absolument transgénérique. C'est-à-dire qu'une poésie, une pièce de théâtre, peuvent contenir du romanesque. Même si cette notion garde des liens particuliers avec le genre du roman, en ce sens qu'il existe telle chose qu'un roman romanesque. Ça se dit comme ça parfois. Deuxième caractéristique, Fersman va dire ceci, le romanesque est ce qui, dans les œuvres, convoque, cristallise ou frappe plus directement ce qu'il appelle le fantasme. Ce fantasme pouvant être servi sous de multiples formes, évocation de chimères, exaltation de personnages tout à fait bizarres, curieux, non vraisemblables, scénarios amoureux étonnants, etc. Troisième caractéristique,
poussé avec ça vers des combles de volonté de puissance, le romanesque peut devenir pathologique. Et disons, on a dérivé vers des idéologies totalitaires. Hein, invité à une lecture du roman qui montrerait que ce roman, finalement, cultive une propension à la dictature ou au totalitarisme. Ou au contraire, ce romanesque peut aussi, selon le type de texte justement qu'on a devant soi, produire une critique des évidences reçues et des modes de gouvernance politique. Et donc, ce n'est pas, disons, une catégorie esthétique qui, appliquée, aurait, disons, une vertu en soi. Ça dépend de l'usage qu'on peut en faire. Ça, c'est intéressant pour moi, parce que, justement, par rapport à mes anciens profs, cette façon de penser suggère que vous ne pouvez pas penser ce côté-là, évasion, comme un truc à part. Et ça correspond tout à fait au type de lecture que je fais en tant que sociocriticien, c'est-à-dire que je tiens compte de tout process sémiotique des œuvres, des textes, et donc les détails, les dérives, les machins qui ont l'air de ne servir à rien, au contraire, ce n'est pas des déchets pour moi, ce n'est pas sur le côté. C'est là-dedans qu'il faut particulièrement aller jeter son œil et voir comment ça se relie à l'ensemble des choses qui circulent dans un texte littéraire. Bien, une quatrième caractéristique que Fetzman donne, là c'est un peu plus curieux, c'est disons qu'il s'est fait plaisir en disant ça, il n'est rien de pire qu'un roman qui aurait réussi à éliminer le romanesque. Bon, je crois que c'est un peu ce qu'il veut dire, mais sûrement aussi que ça renvoie ici à une perception de la littérature contemporaine qui très souvent est d'un sinistre ou bien d'une technicité, disons, barbante ou bien très clôturée, et où il n'y a pas, disons, justement, cette espèce de grain de folie que Fetzman cherche. Donc, je retiens tout ça, que tout ce qui relève donc d'une dépense, je veux dire en mes termes, d'une dépense et d'une prodigalité formelle, tout ce qui active un régime connotatif et tropique d'un texte, aventure surprenante, assaut merveilleux, fantaisie, péripéties et rebondissements inattendus, dissémination de fascinus, surchauffe lyrique ou surchauffe pathétique, insertion pittoresque, tout ce qui apparaît donc comme un excès de la représentation et qui produit ici et là des sensations d'étrangeté, des jeunesses d'euphorie ou dysphorie, tout cela n'est pas un décor inerte et entre au contraire bel et bien dans le complexe de sens du littéraire. Là-dessus, j'aurais un premier thème de recherche qui dirait ceci, voilà, il y a dans la littérature moderne tout un ensemble de romans qui ont essayé de tuer le romanesque, justement, de l'assassiner ou bien de le présenter d'une façon très curieuse. Je vais juste dire un exemple, là ce serait mon cinquième thème, si vous voulez, celui-là, les autopsies multiples du romanesque, comme thème à rechercher, donc le thème à développer, le thème serait celui-là. Quelles sont les techniques employées par divers romanciers pour justement étouffer cette possibilité de d'étrangeté qu'il ne peut y avoir dans ce registre romanesque. Exemple, mais c'est pas bon. Je pense que la plupart des romans qui veulent assassiner le romanesque, au sens où je viens de définir, en font usage. Un exemple type étant Madame Bovary. On peut dire certainement que dans Madame Bovary, le romanesque au sens d'une aventure un petit peu bizarre, un scénario improbable, des choses pareilles, c'est tout ce qui arrive à Emma Bovary. Et donc, tout le reste du roman consiste à présenter ce romanesque-là qui est intégré comme étant mauvais, à ne pouvant aboutir qu'à la mort, dans la société du texte en tout cas c'est comme ça. Et donc là, il y a une intégration par le roman flaubertien de l'esthétique même qu'il combat. Et donc, c'est une façon de penser. On trouverait ça aussi chez Sartre et Nizan. Je pensais à la thèse de Claudia Bougnane. Chez Thierry Beinsteiger, chez Chloé Delorme, on trouverait ça dans la thèse d'Émilie Brière. On trouverait ça chez Volodine, avec des modalités différentes d'assassinat ou de regret parfois par rapport à un romanesque qu'on ne peut plus assumer. Là, je pense à la thèse de Mélanie Lamarre. Mais j'en passe à mes choses à moi, mes deux exceptions, peut-être que j'aurai le temps que d'en traiter qu'une, donc on va voir. Et donc je voudrais vous présenter le dernier roman de Reinhard Jürgel, que voici. Mon compte rendu, je dois le remettre mercredi. Je n'ai donc pas encore lu le roman dans son entièreté. J'en ai lu la moitié. Je peux vous assurer, c'est un roman addictif, en dépit de son côté rébarbatif. Je vais peut-être le faire passer au hasard. Voilà. Donc dans le silence de Hirgel, vous avez deux lignées, ça, ça met en, en contact deux lignées, des Basques, qui viennent de Basse-Lusace, c'est une région d'Allemagne orientale au sud de Brandebourg, et les Schneiderite, qui viennent de Prusse orientale, on est du côté là, de ce qui a été l'Allemagne de l'Est. Et le roman d'Hirgel, Le Silence, va vous raconter l'histoire donc, de ces deux familles, sur à peu près 120 ans, ça va de la fin du 19e siècle à nos jours, dans une espèce de saga. Une saga, au dictionnaire, on vous dit que c'est entre autres l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Ben, c'est bien ça, sauf que le genre de la saga ici est vraiment détourné de ses bases, sorti de ses gonds, car l'histoire familiale ici n'a pas vraiment de sens. Elle n'a pas une allure épique, elle n'a pas non plus, elle n'exerce pas de fascination, il n'y a pas de cause à effet très intéressante, il n'y a pas d'épisodes successifs dont les uns annonceraient des conséquences évidentes et perdurantes. Il n'y a même pas, dans ce roman-là, d'incipit et d'explicite. Il n'y a pas de fin et il n'y a pas de début. En fait, il y a bien un incipit et un explicite, mais ça ne correspond pas du tout à ce que nous entendons, nous, par là, d'habitude, ni à ce que Duché ou Aragon entendaient par là. L'incipit et l'explicite sont d'ailleurs absolument identiques, c'est en fait un arbre généalogique. L'arbre généalogique des deux familles, il est là, et j'ai eu beau retourner la chose, la question, tant que j'ai pu dans ma tête, je ne vois aucune fonction à cet arbre généalogique, même pas une fonction de repérage. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça est. Ça existe, mais il n'y a rien là-dedans. Il y a de temps en temps des notations au-dessous de certains noms. A été prisonnier chez les Russes à tel moment, mais c'est tout hasard, au petit hasard des choses, c'est tout. Il y a un machin bizarre à un moment donné, et ça on le sait quand on arrive vers la page 300, je crois, c'est que là il y a marqué Félicitas, sœur, et puis là il y a Georges et Henri, enfin Georg et Henri. Henri, c'est le fils de Georg, qui a eu avec sa, théoriquement avec sa femme. C'est pas vrai. En fait, on apprend vers la page 300 que Georg a eu Henri avec Félicitas, qui est sa sœur. Georg, donc, c'est un inceste, et donc, c'est un petit assez délicat. Et comment figurer ça dans un arbre généalogique? Ben, Hirgel, c'est un arrange, on voit le nom Félicitas là, un peu perdu. Il est mis sœur en parenthèse, il n'y a rien qui indique que. Il y a quelque chose. Donc voilà, l'incipit et l'explicite, c'est ça. Dans les deux cas, c'est le même. Et donc vous avez là deux machins, deux arbres généalogiques qui sont là comme deux colonnes, ou plutôt comme deux cierges électriques disposés de part et d'autre d'un texte, d'un roman. Et disons que le roman en question, le mot même roman pour désigner ce machin apparaît presque décalé, ça met bien un an dans la mesure où le mot roman, depuis, disons, depuis Benjamin Constant au moins, depuis le début du XIXe siècle, a servi à qualifier toute une série de choses qui relèvent plus ou moins du narratif. Dans cette affaire, donc, que raconte le silence, l'arbre généalogique n'explique rien, mais il y a bien une sorte de suite, au moins dans la première partie. Le narrateur s'appelle Georg Adam. Et l'une des choses qui lui arrive, qui est emmerdante pour lui, c'est que sa femme Henriette, qu'il aimait beaucoup, meurt un petit peu trop jeune, et il est donc dans une assez grande tristesse. Mais bon, cette tristesse, il l'a dit souvent, on va voir revenir de façon récurrente, mais il n'est pas non plus toujours en train d'être accablé. Pourquoi ? Parce que la chronologie elle-même n'est pas respectée. Regardez la structure du roman. Vous avez en fait 100 petites sections, j'ose même pas dire que c'est des chapitres, parce que ça ne correspond pas vraiment à un découpage ordonné et très logique, 100 petites sections datées, et donc sans respect de la chronologie, et ces 100 petites sections, en fait, sont faites d'un texte qui accompagne une photo qui se trouve dans un album de famille. Album de famille qui a été confié par Félicitas, donc sa sœur, à Georg, afin qu'il le transmette à son fils, Henri, qui va partir pour les États-Unis. Et là, on est dans le contemporain. Donc, Félicitas tient absolument à ce que Georg transmette cet album de famille, qui contient donc des photos des deux familles qui remontent donc jusqu'à la fin du 19e siècle. Et bon, Georg va accepter très difficilement, après une longue négociation, de s'en charger, car, disons, son fils ne l'a jamais vraiment intéressé. C'est ce qu'il me dit. Bon, ben, ça c'est un monologue intérieur, car le texte foisonne de fragments narratifs. Vous allez voir tout à l'heure comment c'est fait. On prendra le temps d'examiner un peu le texte. Georg dit « Je suis l'émissaire en service commandé, destiné à remettre ce récupérateur de chaleur familiale, appellation très ironique de l'album de photos, et je ne m'épargnerai pas de prêter le flanc à la parfaite indifférence de ce fils, entre guillemets, je remettrai à cette créature, toujours pour moi étrangère, et tenue à distance, les 45 pages de gros papier brun velouté, encollées d'une mort 100 fois figée, donc ça sont mes photos, car la plupart des gens sur mes photographies ne vivent plus depuis des lustres. » Donc, à structurer comme ça, vous avez, en fait, deux, trois lignes qui disent, bon, voilà, photo d'Henriette, parenthèse, dans le jardin de Tavlov, prise en janvier 1942. Puis après, photo de Hilde, on ne sait pas qui est Hilde, prise tel jour à Berlin en telle année. Pas d'ordre chronologique, et vous ne voyez aucune photo. En fait, il est juste marqué photo numéro 1, photo de ligne de garde dans machin, photo de numéro 3, etc. Et tout ça est dans le désordre. Troisième point que je voudrais évoquer devant vous, après donc ces remarques sur l'incipit et sur la structure, la temporalité. C'est une temporalité qui est systématiquement affolante. Avant l'extrait que je vous ai communiqué là, on a ceci. On a d'abord, comme je viens de vous le dire, la vedette, si vous voulez, de la photo. Donc, la vedette de la photo se lit comme ça. Photo 16, parenthèse, photographie floue. Hilde, propriété de Frédériquet, dans le jardin de Tavlov, 1942. Première mention du temps, 1942, et nous sommes donc en pleine guerre et sous l'Allemagne nazie. Puis il y a tout un texte qui parle d'Henriette, et au fur et à mesure qu'avance ce texte, avant donc l'extrait que je vais vous commenter, on voit toute une série de strates temporelles. On voit par exemple Henriette parler de sa famille avant son mariage. Et donc là, nous sommes, je n'ai plus le texte devant, l'année devant moi, mais quelque part, 1960, je crois. Ensuite, on a Georges qui rêve un petit peu et qui pense à ce qu'il appelle le goût du temps. Ça, j'aime beaucoup, je dirai tout à l'heure. Le goût du temps, dit-il, à ce moment-là, quand il évoque son passé, il dit, voilà, c'était un mélange de poussière terne et de métal de vieille cuillère. Troisième temporalité, Georges juge un tas de gens en dehors du temps. Il nous estime qu'ils n'ont pas vraiment de rapport au réel convenable, et il dit, bon voilà, tous ces gens-là dont on parle dans la famille, là, c'était vraiment des moins que rien, ils n'avaient pas de sens pratique, ils étaient donc en dehors du temps. Le seul temps, dit-il, qui vaille, ce n'est pas autant le temps des misérables, c'est le temps du luxe. Ce qui donne de la durée, c'est le luxe, rien d'autre. Quatrième temporalité, les documents du père. Il fait allusion aux documents du père, on va en avoir un ici sur la page. Ils sont donc, dans le texte, comparés aux cartes d'un vieux jeu de cartes. Et tout ce que dit Georges de Sky, il dit ça c'est vraiment sec, c'est un vieux jeu de cartes qui ne sert plus à jouer, c'est la part administrative de la biographie du père. On passe ensuite aux sentiments, avec ceci. Ce qu'il y a de plus coriace et donc de plus cruel que les hommes, c'est d'être obligé de traîner avec les sentiments. Et la durée donc, du sentiment est équivalente ici à une sorte de maladie, de traînerie qui est difficile. Et puis ensuite, après ça, on a toute une série d'autres choses. Évocation de fiches de renseignement qui renvoient, vous allez voir, à 1916, 1917 et à d'autres choses. Et donc dans tout le roman, vous avez une traversée finalement de l'histoire de l'Allemagne depuis 1880 grosso modo jusqu'à 2005 peut-être, avec toute la traversée des deux guerres mondiales, le nazisme, et puis tous les problèmes liés à la réunification allemande, et tout cela est passé au tamis comme ça, d'une chronologie informe, d'un non-sens historique majeur, et de cette espèce de récurrence, d'une intention d'écriture qui serait de capter ce que le texte appelle le goût du temps. J'en viens à un extrait, et vous allez voir comment ça marche, c'est assez affolant. Je vous dis que si vous commencez à lire ce roman, il est a priori assez déprimant à lire. D'une part, on s'y fait à cette écriture, y compris à l'agression du langage que vous allez constater, et il y a un côté addictif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est lassé généralement d'entrer dans un fragment, mais une fois qu'on est au milieu, on y est en plein. On est en plein dedans, et une fois qu'on a terminé un fragment, on a envie de voir si le suivant va être aussi du même tonneau, quoi. Et c'est oui, c'est le cas. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Ça m'a conduit jusqu'à 3h du matin lundi passé. Donc, commentaire de l'extrait ici. Vous avez donc sur la colonne de gauche une citation là, donc, d'une fiche de renseignement trouvée dans le papier du père d'Henriette. Et donc, ceci renvoie à la carrière du père à l'armée, son renseignement complémentaire au renseignement personnel, exercice et affectation, conduite, sanctions, etc. Ceci nous ramène donc en 1917, dans la Grande Guerre, avec donc un monsieur qui a eu la croix de fer deuxième classe, sa conduite était donnée comme étant très bien, etc., etc. Et puis, passage soudain, on retourne à la prose et à la narration de Georges, en fait de Georg, s'il fallait dire en allemand. Et nous allons lire deux extraits particulièrement. On a le premier paragraphe en italique. Dès lors que chacun se voit allouer un destin pas plus grand qu'un bon de réduction au supermarché. Là, ce que vous avez là tout de suite, c'est le destin, donc un destin pas plus grand qu'un bon de réduction au supermarché. C'est un destin d'une part qui correspond très bien à ce que des chercheurs comme Claudia Boumian et Marie David ont désigné comme étant un roman sans projet. C'est tout à fait cela. Ici, ce sans projet est lié à l'économie. Donc, dès lors que chacun se voit allouer un destin pas plus grand qu'un bon de réduction au supermarché, l'ombre des corps se hâte au-devant de l'éternel égale prochaine guerre. Ici, ce qui se passe, c'est un détournement de l'énoncé de résurrection. Le Christ, rappelez-vous, n'a pas promis la résurrection des âmes, il a été jusqu'à promettre la résurrection des corps, d'où la question que j'ai posée un jour à Gilles Marcotte, très bien, mais à quel âge? Et donc, ici, donc, le nombre des corps se hâte au devant de l'éternel, mais cette phrase de la résurrection est ici donc détournée, l'éternel est mis au féminin et renvoie à la prochaine guerre. Donc, ce qui est éternel, c'est pas la résurrection, c'est pas Dieu, c'est le fait que l'humanité va à nouveau être en guerre et indéfiniment. Dès lors qu'il s'agit pour le pauvre type de crever, si donc l'horizon d'attente sociale des pauvres vient d'être fini, les riches et galordures rappliquent avec ethos, pathos, athos, portos, aramis. Alors c'est assez intéressant parce que là donc les riches vont revenir avec de la rhétorique, une rhétorique qui va être marquée par deux traits, l'ethos, c'est-à-dire une position morale, en tout cas une prestation, une façon de se présenter dans le discours qui va susciter un état affectif particulier chez celui qui reçoit le discours. Le pathos, c'est a priori donc la fabrication d'émotions, et de là la rime ethos, pathos appelle soudain les mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, les mousquetaires de Dumas, qui eux sont guerriers, sont des guerriers, des soldats, et donc ce qui renvoie déjà à la prochaine guerre. Donc ce que le texte nous dit ici, c'est que les riches vont trouver dans leur discours et leur propagande des bonnes raisons à transmettre aux pauvres pour leur dire d'aller à la guerre. Et alors là, vous remarquerez que la typographie change, on tombe dans un type de caractère, un caractère de type gothique. Ne te demande, point d'exclamation, pas, deux points, que peut le égal pays pour, point d'exclamation, toi, mais ce que tu peux pour ton pays. Donc, ne demande pas que peut le pays pour toi, mais ce que tu peux pour ton pays. Alors, vous aurez reconnu ici une phrase de John Fitzgerald Kennedy, et elle est citée ici comme étant donc une manipulation très claire, que souligne les passages, disons, des signes de ponctuation avant ce qu'il devrait ponctuer, ne te demande pas le point d'exclamation, vient avant le pas, et le point d'exclamation après le pas est remplacé par deux points, de façon donc à souligner une espèce de d'étrangeté, de stupeur que crée finalement ceci pour l'énonciateur. Phrase de Kennedy, c'est suivi par une parenthèse avec un caractère qui devait être probablement légèrement plus petit dans l'original. Ma traductrice, qui est une fille géniale, fait ce qu'elle peut, mais ça devait être un peu plus petit. Une phrase, donc ça c'est un extrait autoréflexif, si je puis dire, une phrase prononcée un jour par le président d'un pays encore partisan de l'esclavage 150 ans plus tôt, vous avez reconnu les États-Unis d'Amérique. Un président tombé par la suite sous les barres de ses propres compatriotes, qui ont ainsi fait pour leur pays ce qu'ils ont pu. Donc l'application de la théorie de Kennedy à lui-même a conduit à son assassinat. Et de même que la loi se dirige exclusivement contre la bête, allusion à une discussion biblique entre Moïse et son supérieur, l'éthos vise uniquement les pauvres gens. Uniquement, au lieu de uniquement, donc uniquement qui manque à toute éthique. Vient ensuite, après la parenthèse sur Kennedy et cette allusion biblique, vient ensuite une maxime scatologique. Si la merde rapportait plus que l'argent, les pauvres seraient constipés à vie. Et enfin, pour finir, les riches vont bien même jusqu'à piquer les sous sur l'assiette de Madame Pipi. À nouveau, on est dans du scato ou dans du pipisme, comment on appelle ça. Et ceci est, disons, la version très vulgaire de ce que c'est que le capitalisme de séduction omnipolaire. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, le capitalisme vise à aller chercher de l'argent dans toutes les couches de la population, et pas seulement chez ceux qui ont de l'argent, y compris chez Madame Pipi. Il faut donc... par exemple, on va vendre une casquette pour Madame Pipi de façon à ce qu'elle puisse elle aussi dépenser le peu d'argent qu'elle a. Donc vous voyez ici donc une charge assez incroyable sur un tas de choses, avec un jugement une évaluation très dure, très violente de ce que c'est que l'humanité, toujours prête à repartir en guerre, avec des décalages entre richesse et pauvreté qui sont abyssaux et qui n'appellent aucune. Donc, il n'y a aucune réconciliation possible, ni aucune passerelle. Le tout est empreint d'une violence symbolique très forte, marquée par cette agression de la langue et de la langue allemande, qui manifestement est vue ici par l'écriture comme étant habitée systématiquement d'une retombée dans la guerre, disons carrément aussi d'une retombée dans le nazisme, qui est soit... Ovvi ou Marvert, mais qui est toujours bien là, il y a un jugement qui est prononcé, une évaluation de l'imaginaire social allemand, si on veut, d'une façon de le capter. Tout revient ensuite à autre chose, et là, descendons plus bas, je ne peux pas vous lire tout, car le temps passe, mais disons, dans le deuxième paragraphe de la colonne de droite, du côté, donc, vers la 15e ligne avant la fin, la ligne commence par rester dans la terre, dans le passage en italique, donc une 15e de ligne avant la fin de la page. Et voici, je crois, une des choses qui est importante dans la logique même du texte. Tout ce qui a été détruit et enfoui par le passé revient avec le temps et à la lumière. Les cadavres des tués, et pas que ceux-là, tout le reste, de bric-à-brac aussi, les ordures et ferrailles, tout ce qui a été consommé et jeté, loin des yeux mais jamais loin du cœur, s'en revient. Et ramène son époque, ça j'aime beaucoup, c'est ça, cette fusion du possessif et du mot époque, et ramène son époque en même temps que ses ombres, ça et le temps, ils sont de retour. Autrement dit, ce que dit le texte ici, c'est qu'il y a un éternel retour, entrons dans sa logique, un éternel retour de la merde. Et il n'y a pas l'ombre d'un projet, il n'y a ici pas l'ombre justement d'une ouverture romanesque possible. Dès qu'il y en a eu dans le texte, il y a d'autres passages où on voit des aspirations comme ça à du rêve, à des amours possibles qui seraient, disons, fantastiques, etc. Vous avez systématiquement un retour à un moment donné de flamme qui fait que la moindre escapade, la moindre ouverture comme ça est soudainement vraiment massacrée à la fois par ma langue, par le style, par ce qui est raconté, y compris donc par cette succession de formes bizarre. Vous avez sur à gauche un machin qui renvoie à la guerre de 14-18 et à droite un commentaire qui est plus général sur l'état du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la narrativité ici? Ça mime, d'une certaine façon, c'est une parodie totalement froide de la, du genre de la saga. Les gens lisent des sagas, je crois, pour avoir une sorte de vision sympathique du temps qui va, avec des morts, finalement, dont on se souvient avec bienveillance. On va régulièrement sur ma tombe ou leur tombe pour m'effleurir, même si on a eu des problèmes avec eux avant. Le temps arrange tout, comme on dit, hein, dans une saga, c'est à peu près ça. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est une saga noire. Et le but du texte ultime, c'est d'arriver à dire ceci. Bon, voilà, arrêtez de nous présenter de l'espoir. Au bout du texte, là, je n'ai pas lu la deuxième partie encore, mais je suis allé voir la dernière section qui s'appelle « Pas d'épilogue ». Évidemment, ça en est un pour une fois. Et dans ce pas d'épilogue, il est indiqué, bon, voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est la fermer. Donc c'est le silence. Plus on va se taire, mieux ce sera. La seule chose qu'il faut faire, c'est perdurer. Voilà. Et donc il y a un refus total là, de toute utopie. Le roman aussi est en train de multiplier les allusions à des projets qui en Allemagne ont voulu enchanter, disons, la population, que ce soit le fait de partir en guerre en 14, le fait d'aller conquérir le monde en 1939, le fait de vouloir la réunification allemande, on va devenir un grand peuple puissant et sympathique. Tout ça est vu non pas par la petite comment dire, en gros plan, mais passe par les yeux de la lorgnette, si vous voulez, une espèce de petite lorgnette qui va voir dans les détails combien ça montait. Et au bout du compte, donc, on se fait toujours avoir, sauf si on décide, pour une bonne fois, quitte à devenir malade, de se contenter de perdurer. Au moins comme ça, on n'aggravera pas le mal. Et voilà, donc c'est une façon de faire. Je vais m'arrêter là parce que je fais mes 30 minutes, mais je vous signale que si vous voulez continuer, je vous aurais parlé de ce roman qui est tout le contraire de cela. C'est-à-dire que c'est de Tonino Benacquista, ça s'appelle Romanesque, et là, c'est un couple qui se rencontre, ils tombent amoureux l'un de l'autre tout de suite, ils vont se réfugier dans une petite maison, vivre leur amour, ils font leur vie, elle va chercher des baies dans la forêt, où ils braconnent, ils vont vendre ça à la ville d'à côté, puis ils vivent, ils copulent dans la joie tout le temps, ils sont heureux comme c'est pas possible, et ça dérange tout le monde. Et donc ce couple-là va d'abord être agressé par des villageois. Les villageois, comme dit la chanson de Brassens, les villageois n'aiment pas qu'on vive autrement qu'eux. Donc les villageois ne supportent pas qu'il y ait un couple là. On ne les voit jamais à la fête du village, c'est pas sain, etc. Puis après, ça va être les religieux, le prêtre, qui ne va jamais à la messe, donc qui soupçonne d'accorder son oreille à la porte pour voir, il entend des bruits, ça doit être Satan, etc. Et puis les poètes. Les poètes sont très fâchés parce qu'eux écrivent des grands poèmes d'amour. Et là, manifestement, les deux autres sont en train de vivre l'amour. Et disons, en plus, ça fait du bruit. Donc les gens sont plus intéressés par le fait qu'il y ait deux personnes en train de vivre l'amour qu'à lire un poème d'amour. Le roman va partir dans tous les sens. Ça raconte mille ans d'errance. À un moment donné, ce couple va être appelé donc, par Dieu. Et Dieu les maudit parce que Dieu n'est pas content, parce que vu que pendant qu'ils se célébraient l'un l'autre physiquement, ils ne le célébraient pas en lui, donc ça ne lui va pas, il va les envoyer en enfer. Là, ils vont affronter Satan, qui n'est pas content non plus, parce que manifestement, ils n'ont pas compris que la chair était un péché, etc., etc., jusqu'à la toute fin. Et donc, là, si vous voulez, c'est pour moi. C'est un apax total, parce que dans le monde actuel de la littérature, mais pas seulement, dans l'imaginaire social contemporain, lorsqu'il est question d'amour, d'érotisme, d'amour physique ou de plaisir physique, on est toujours dans des machins qui sont formés par la performance, par le vice, je ne sais tout quoi, mais enfin c'est aberrant. Tandis que là, il y a une forme finalement de... L'impossibilité réelle aujourd'hui, c'est ça. C'est la loyauté entre un homme et une femme sur le plan physique qui s'aime et qui voudrait bien rester tranquille. Impensable.